à nos chers auditeurs de Radio JM, Shalom, Ronia Cruz depuis Hebron. Jacob a dû surmonter tant de difficultés et tant d'épreuves. Mais nous le savons, la vie constitue par elle-même une gageure, faite de mille aspects, et plus le but à atteindre est élevé, plus le chemin est difficile. Le problème est de savoir comment l'homme réagit-il face à ces difficultés. Se sent-il écrasé ou est-il capable de les surmonter? Fait-il semblant de les ignorer, comme le héros voltairien de Candide, qui ressemble en tout point à la description que nos sages ont faite de l'homme sous, dont l'ivresse a plani toutes les difficultés, tous les malheurs? D'ailleurs, Voltaire voulait ainsi tourner en dérision un certain philosophe du nom de Leibniz et de ses vulgarisateurs, qui, pour exempter Dieu des accusations concernant les malheurs de la vie sur Terre, prétendait qu'aucun malheur, en fait, n'existait en ce bas monde. Pour Leibniz, lu par Voltaire, tout était simple dans cet univers. Une autre attitude consisterait à reconnaître et ne pas nier l'existence des mille difficultés qui accompagnent la vie humaine, mais à bien savourer, presque d'emblée vaincu. L'homme sombre alors dans le pessimisme chronique et paralysant, ainsi que dans les décadences morales presque automatiques qui l'accompagnent. Et voilà que face aux épreuves, un personnage comme Jacob n'adopte aucune de ses attitudes. Il va reconnaître avec courage les difficultés de la vie humaine, mais il ne s'avouera jamais vaincu. Avant même sa naissance, il livre son premier combat. Ce qui signifie, selon Rashi, qu'il luttait pour la possession des deux mondes, ce monde-ci et le monde futur. Plus tard, bien qu'Esav réussisse à le précéder à la naissance, il ne cède en rien, étant entravé cette injustice en saisissant Esaü par le talon. Il sera ainsi appelé Jacob, l'homme qui talonne la réalité. Il épie cette dernière et le moment voulu va intervenir pour l'infléchir. C'est une manière d'être homme qui va préfigurer toute son existence. Jacob ne renonce point au droit d'aînesse et il l'obtiendra. Et lorsque son frère veut l'assassiner, il part se mettre à l'abri et reconstruit sa vie à Charan. Lorsqu'il se retrouve marié avec une autre femme que celle qu'il appelait de ses voeux, il n'adresse aucun reproche à celle qu'il est introduite subrepticement dans sa vie et il ne sombre pas non plus dans le désespoir. Il accepte cette situation difficile et tout en gardant Léa pour femme, il travaille cinq nouvelles années pour épouser aussi Rachel qui désirait tant. Ainsi, il va construire sa famille avec Léa et Rachel, dualité inhabituelle dans la Torah, laquelle s'est avérée indispensable pour fonder la nation hébraïque et toute tribu. Jacob ne s'avouera jamais vaincu, bien que la vanne ait changé les conditions de son salaire à plusieurs reprises. Il arrivera à surmonter également cette épreuve et deviendra même immensément riche. Oui, notre cher Jacob comprendra à temps que Laban veut l'assassiner et décide alors de fuir avec tous ses biens. Certes, le père Laban le poursuivra, mais tout est bien qui finit bien, notamment par un traité de paix. Il en est de même d'ailleurs lors de sa rencontre avec Esav. Le frère ennemi renoncera finalement à lui nuire, du moins dans l'immédiat. Mais serait-il véritablement le frère ennemi? Une bonne question à nous poser. Le summum de tous les combats qu'il a livrés est celui de sa lutte avec l'homme nocturne, un homme qui lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Qui était donc cet homme mystérieux? Le verset ne le précise point, mais il est certain qu'il s'agissait d'une apparition divine. Jacob appela ce lieu Péniel, qu'il écrit parce que j'ai vu un être divin face à face, Tanim El Tanim, et que ma vie restait sauve. Pour cette raison, son nom sera désormais Israël, celui qui a combattu avec le divin et qui a vaincu. Car tu as joué contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. Il combat contre le mal qui existe dans le monde, et le mal qui existe en lui. Il ne s'agit donc pas de combat seulement terrestre et matériel, mais aussi spirituel. Jacob a affronté ces deux dimensions et en est sorti victorieux. On se rappelle, Abraham avait lui aussi dû affronter de rudes épreuves et lui aussi a été sorti vainqueur. Cependant, ses luttes n'avaient pas de prise sur lui. Des hauteurs de sa vie spirituelle, Abraham a réalisé l'œuvre de sa vie. Yitzhak avait également dû faire face à des épreuves terribles pour se montrer prêt à être immolé sur l'autel dressé par son père. Et rappelons qu'il avait fallu mener une lutte terrible contre lui-même. Et Yitzhak, lui aussi, a vécu ses épreuves avec un sublime degré de détachement, presque. Jacob, par contre, se retrouve au cœur des problèmes et appréhende des contradictions palpables des situations à affronter. Il va rester ballotté par les difficultés constantes de tout ordre. Selon l'expression imagée de nos sages, Jacob a pénétré Beoviakora dans l'épaisseur de la poutre, c'est-à-dire au plus profond de la complexité de la vie, et il en a surmonté tous les obstacles. Et ce n'est pas peu dire. Ce n'est nullement un hasard si la descendance d'Abraham, Yitzhak et Ismaël va se séparer entre le monde de la lumière et celui de l'obscurité ou de l'obscurantisme. Il en est de même pour la descendance d'Israël, dont l'un des enfants sera un serviteur de Dieu et l'autre un esclave fatalement tourné vers l'Éternel. Alors que tous les enfants de Jacob Israël feront partie intégrante du peuple d'Israël. Il faudrait dire à cet assassin de cette semaine qu'avec toute la douleur qui nous empoigne et la souffrance qui nous entreprend de cet enfant, de notre enfant, ce soldat lâchement assassiné, je le répéterai à chaque fois, à toute émission et à tout propos, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Nous en avons vu d'autres, mais nous sommes encore et toujours là. Et aujourd'hui, avec la renaissance nationale, plus que jamais, ne vous en déplaise, messieurs. Renier à Christ depuis Hebron, je vous souhaite Shabbat Shalom.